Bon, on va étudier ce matin une parabole très connue. En fait, tout ça qu'on étudie à date était très connu. C'est parce que même dans le milieu catholique, les évangiles sont beaucoup lus. Le reste du Nouveau Testament est négligé, mais... Tournez avec moi dans Matthieu 25, à partir du verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, mais je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. Et j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. » On verra plus tard une autre parabole dans Luc qui est similaire, mais ce n'est pas exactement la même. Donc Jésus, au moment où il raconte cette parabole-là, il est à Jérusalem, et c'est peu de temps avant sa mort. Donc, il s'est déjà rendu à Jérusalem, il a été reçu avec les acclamations et il s'est retiré avec ses disciples et il s'adresse particulièrement à ses disciples. Puis la parabole fait partie d'un long discours sur la fin des temps. Donc, il leur enseigne avant sa mort. Il va mourir, il va ressusciter, mais il leur parle des choses à venir. Il leur parle déjà qu'il va revenir. Même si pour les disciples, il y a de la misère à comprendre ça, là. Pourquoi tu reviendrais, tu es là avec nous? Mais il n'avait pas saisi encore que Jésus allait réellement mourir et être ressuscité. Mais cette parabole-là s'imbrique dans un long discours sur la fin des temps. Et dans la parabole, qui est représenté par le maître? Jésus?
Ouais.
Puis dans un sens, sous certains aspects, on voit que c'est Dieu. Mais Jésus, c'est Dieu. Certains pourraient dire Dieu, mais on peut dire Jésus. Parce qu'il y a une caractéristique, c'est qu'il doit partir. Mais un jour, il reviendra. Il part comme en voyage. Mais il va revenir. Et qui sont représentés par les serviteurs? OK, mais mettons qu'il y a 2 genres de serviteurs. Hein? C'est quoi les 2 genres? Mais qu'est-ce qui les caractérise?
Ceux qui le sont et ceux qui se disent l'être.
Ouais.
Comme officiellement des serviteurs, mais dans les faits, ils ne servent pas leur maître. Donc, on voit deux genres de disciples de Jésus. C'est eux qui sont représentés. Parce qu'il y avait toute une foule qui suivait Jésus, là, qui se disait disciples, qui l'acclamait, Hosanna, roi des rois. Mais ils n'étaient pas tous réellement ses disciples. Mais il y a un genre qui est bon et fidèle. C'est comme ça qu'il est décrit. Bon et fidèle serviteur. Tandis que l'autre, lui, il est décrit comment? Méchant ou mauvais. C'est-à-dire qu'il est associé au mal. Il est mal. Mais l'adjectif, c'est mauvais ou méchant. Et paresseux. C'est vraiment à l'opposé. Au lieu d'être bon, il n'est pas bon, mauvais. Et au lieu d'être fidèle, il est paresseux. Qu'est-ce que c'est qu'un talent? Ben, on l'a déjà vu dans la parabole du débiteur là, impitoyable, là, le serviteur impitoyable. On a vu qu'un talent, c'est quand même une bonne somme d'argent. Mais c'était peu en comparaison aux yeux du maître, c'était peu de choses parce qu'il était fidèle dans peu de choses. Mais c'est quand même une bonne somme d'argent, là, un talent. C'était, à l'époque de Jésus, un certain poids d'argent. C'est pour ça que ça peut valoir différents montants, parce que ça dépend du métal qui est pesé. Un talent de bronze vaut moins qu'un talent d'or. L'or est plus lourd. Donc c'est un poids. C'est pour ça que c'est variable. C'est difficile de savoir combien ça vaut un talent. Mais plusieurs s'accordent pour dire... Quand il parlait juste d'un talent sans donner de spécification, c'est que c'était environ 100 jours de salaire d'un homme. Donc, un tiers d'année. Ouais, 3-4 mois, là, si on compte les fins de semaine. Et dans la parabole, que représentent les talents qui sont donnés à chacun? Les tâches à accomplir, les dons que Dieu a donnés à chacun d'entre nous, en particulier. La parole de Dieu qui est confiée. Voilà, c'est tout des aspects de bonnes réponses. Mais l'interprétation classique, si vous lisez des anciens livres ou même de l'Église catholique, là, c'est les dons spirituels. Dieu a confié à chacun des dons, des c'est-à-dire des capacités, des aptitudes pour le servir sur la terre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie le mot talent? C'est comme une capacité innée. On peut dire que quelqu'un est doué, il a du talent, mais c'est une capacité particulière, une aptitude dans un domaine. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que, c'est une aptitude, une capacité. Ce qui est intéressant, c'est que le mot talent est né en français de cette parabole-là. À l'époque, où même dans les débuts de la langue française, le mot talent n'existait pas, la seule signification, c'était un montant d'argent. Mais vu que l'interprétation classique, c'était que la parabole des talents concerne les dons de Dieu, les dons spirituels, les gens ont commencé à utiliser le mot talent au sens figuré pour dire « gaspille pas ton talent », genre la somme d'argent que Dieu t'a confiée. À force de parler comme ça, du talent, c'est devenu un synonyme de... C'est devenu un sens propre, une capacité. C'est intéressant. Si vous voyez l'origine du mot talent dans le dictionnaire ou en Wikipédia, ça provient de la parabole des talents. Donc, le sens figuré est devenu le sens propre. Puis même plus tard, l'adjectif talentueux a été ajouté. C'est vrai que chaque chrétien a reçu un don. On peut dire des dons, mais en fait, c'est le don de Dieu qui est une combinaison de capacités. C'est lui qui a un don pour exhorter ses frères. Il n'a probablement pas seulement cette capacité-là. Il en a peut-être d'autres aussi. C'est le don de Dieu. C'est qu'on regarde toutes les tâches qui peuvent être accomplies dans l'Église et on a différentes capacités, là, tout dépendant de la combinaison que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que Pierre dit dans 1 Pierre, « Chacun a reçu un don au singulier. Mettez-le au service des autres. » Bien, c'est correct de dire des dons, parce qu'à ce moment-là, on veut parler des différentes tâches qui composent, les différentes capacités qui composent ce don. Donc, chacun a reçu un don. Et on voit ici, chacun des serviteurs dans la parabole a reçu. Il y en a un qui a reçu 5 talents, l'autre 2, l'autre seulement 1. Mais les 3 serviteurs qui sont venus, qui ont été appelés, ont reçu chacun. Mais Dieu donne plus que cela. D'ailleurs, vous avez listé d'autres choses que Dieu donne. On sait que ça ne se limite pas seulement aux dons spirituels ou aux capacités que Dieu donne, parce que ça serait un peu étrange si c'était seulement ça, parce que dans la parabole, le maître confie à chacun selon sa capacité. Il n'est pas dit qu'il confie une capacité, là. Ça serait un peu difficile, vu que c'est un concept abstrait, là, c'est dans le monde spirituel, mais il confie à des gens selon leur capacité. Donc, ça, intuitivement, on sait que c'est plus qu'une capacité qui est donnée, là. C'est certains ont dit des tâches qui sont confiées. Ou la parole. Dans le fond, le ministère de la parole. Qu'est-ce qu'on fait avec la parole qui nous est confiée, là? En tant que chrétien, elle nous est confiée à la mesure de nos capacités, à la mesure du don que nous avons aussi reçu. Qu'est-ce que signifie un profit dans le contexte du royaume de Dieu? Parce que ce qui est imagé, ce qui est figuré, c'est que les serviteurs ont rapporté du profit, pas pour eux, mais pour le maître. Dans le fond, pour le royaume du maître. Qu'est-ce qui est considéré comme un profit dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux? Les fruits de l'évangélisation, les âmes qui sont gagnées à Christ, qui contribuent à la renommée de Dieu sur la terre. Oui, la façon de vivre va contribuer à glorifier Dieu, ou non. Un autre aspect aussi, qu'est-ce qui est considéré comme un profit? Mais Jésus dit que celui qui s'accroche là, à lui, là, il va finir par porter du fruit. Et encore plus de fruits, du fruit encore meilleur. Mais c'est quoi ce fruit-là? Est-ce que c'est seulement la conversion de d'autres autour de lui? Ou dans la parabole des 4 terrains, là, celui qui est poussé dans la bonne terre, il porte du fruit au centuple. Oui, sa propre sanctification et peut-être sa contribution à l'édification des autres. Donc, la croissance spirituelle est vue comme un profit aussi. Le serviteur est allé placer l'argent seulement en banque puis il s'est croisé les bras. Il a veillé à cela, là. Il a administré l'argent du maître. Il ne l'a pas juste déposé à quelque part, puis l'intérêt a monté tout seul, puis à la fin, parce qu'il n'aurait pas fait plus, vraiment, là, que l'autre qui l'a mis dans la terre. En tout cas, il a fait un peu plus, c'est qu'il est allé déclarer, il a pris soin, mais c'est plutôt montré comme une action fidèle, d'avoir géré bien, et bien parfois leur sortir, investir ailleurs, faire des achats. Il a géré pendant tout ce temps-là. C'est pas immédiat, parce qu'il est dit que le maître est parti pendant longtemps. C'est longtemps après qu'il est revenu. Et longtemps après, l'argent avait doublé. C'est un travail constant. Quelqu'un pourrait utiliser cette parabole-là pour montrer que le salut s'obtient par les œuvres. Mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut répondre? OK, mais c'est quoi la croyance de l'Église catholique par rapport aux œuvres? C'est qui va finalement obtenir le salut? C'est qui va rentrer dans la joie de son maître, selon la doctrine catholique? Plus tu fais des œuvres, plus tu améliores tes probabilités. Mais personne ne peut être sûr. Mais ici, tous les serviteurs qui ont été fidèles sont admis. C'est pas seulement celui qui avait 5 talents qui avait fait plus que l'autre, qui est admis. Là. Même celui qui en avait juste deux, il est admis. Ceux qui ne sont pas admis, selon cette parabole-là, c'est ceux qui n'ont rien fait. Donc, c'est vrai que les œuvres ont une importance parce que c'est ce qui distingue un vrai chrétien d'un faux. Le faux chrétien ne fait aucune œuvre pour la gloire de Dieu. Il peut avoir l'apparence d'en faire, mais en réalité, il n'est pas en train de servir Dieu. Mais tous ceux qui en font, à la mesure de foi qui leur a été impartie, sont sauvés. Donc, si on résume, qu'est-ce que c'est que le profit? Ben, il y a les fruits de l'évangélisation. OK, on va revenir. Et les fruits de l'édification. Puis on sait que tout ça, dans le fond, c'est pour la gloire de Dieu. Là. J'ai lu un commentateur là, qui était sûr de son affaire, mais lui, il dit que probablement que le serviteur-là, il l'a caché parce que quand un maître partait en voyage, ben, il pouvait arriver des accidents. Certains ne revenaient jamais. Il dit, ah, je vais garder pour moi cet argent-là. Et il ne croyait pas vraiment que le maître allait revenir. Mais d'un coup, qu'il ne revient pas, ben, personne ne va savoir que j'avais cet argent-là. Je ne l'ai pas enregistré à la banque. Il était comme malveillant. On peut penser à Judas, qui était l'un des 12, là, qui a trahi Jésus. On ne sait pas comment il raisonnait. Là. Il a vu Jésus faire tous ces miracles-là, mais il ne croyait pas vraiment que c'est le Messie. C'est des suppositions, mais j'imagine qu'il s'est dit, bon, je vais vendre Jésus, puis si c'est vraiment le Messie, il ne sera pas arrêté. Donc, je vais me faire de l'argent. Puis si ça ne l'est pas, ben tant pis. Mais là, il a été confondu parce qu'il a été arrêté, mais ça l'était. Mais ce qui est incohérent aussi, c'est que il l'a jugé, le maître, mais il n'a pas agi en cohérence là, avec ce qu'il a jugé. Puis le maître lui dit, ben voyons, OK, tu penses là, que je suis dur et qu'il moissonne là où je n'ai même pas semé, même si tu supposes que je suis injuste, là, que je veux juste m'enrichir, que je suis avare. C'est ça que tu as conclu. Puis tu n'as pas tout fait pour me satisfaire. C'est insensé. Oui. Même si officiellement, on est serviteur de Dieu, dans les faits, les faits vont démontrer si on le sert vraiment ou pas. Là. Donc, si on considère, si on se met dans le contexte où on considère que les profits pour Dieu, pour le royaume, c'est l'évangélisation, l'édification. C'est quoi qui nous est confié? Oui, donc ce qui nous est confié, c'est, on peut dire, c'est le message qu'on a reçu, comme le trésor qu'on veut faire connaître. Mais dans un sens même, ce qui nous est confié, c'est les autres autour de nous, même les convertis et les futurs convertis. Mais en servant les autres, on ne sait pas encore qui fait partie du royaume ou pas. Même dans l'Église, on ne peut pas être sûr à 100%, mais on sert. Et on peut porter des fruits d'évangélisation, d'édification, mais les deux vont ensemble. Dans le fond, c'est des fruits pour la mission. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Pierre, chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres. Donc, les talents, en plus d'être des dons spirituels, sont des occasions de servir les autres. Des tâches, mais comme il dit dans Éphésiens, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les pratique, qu'il met sur notre route. Et ces bonnes œuvres-là, c'est de servir les autres pour la croissance du royaume. Puis, c'est dans Matthieu, là, on approche de la fin de l'évangile de Matthieu, et trois chapitres plus loin, alors que Jésus est ressuscité, c'est là qu'il donne la mission à ses disciples. Bon, c'est pas loin de là, là. Peut-être les disciples ont encore frais à la mémoire toutes ces paraboles-là. Oh, il faut faire profiter le royaume de Dieu. Puis là, Jésus leur donne la mission qu'il veut qu'ils accomplissent. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, il est vraiment le maître. Et son royaume, c'est pas seulement l'un des royaumes, c'est tout. On ne le voit pas encore, là, mais son royaume, c'est tout. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc, de faire des disciples et ensuite de les former, de leur enseigner, c'est accomplir la mission. C'est contribuer à l'avancement du royaume. Et ça va servir le but ultime qui est de glorifier Dieu.
On est tous à la construction de l'édification de l'Église, on est toutes des pierres vivantes, puis on est chacun à sa place pour la construction, l'édification de l'Église que Dieu veut avoir.
C'est pas seulement les responsables de l'Église qui ont cette tâche-là, c'est chaque pierre dans l'édifice contribue à l'édification de l'édifice. Donc, tout disciple de Jésus doit éventuellement porter du fruit. Parfois, ça peut prendre du temps. Là. Il faut ajouter de l'engrais, il faut arroser. D'un coup, il y a un petit bourgeon. Ah. Mais éventuellement, il va avoir du fruit. Est-ce que les deux premiers serviteurs ont connu un profit immédiat? Maintenant, on l'a vu. Ça a pris du temps. Bien, ils ont peut-être commencé tout de suite à porter du fruit, là, on ne sait pas. Mais c'est longtemps après que le maître est revenu. Mais malgré que c'était longtemps après, le troisième serviteur, lui, avait zéro profit. Qu'est-ce qui est réservé aux chrétiens, aux deux premiers? Bien, les chrétiens qui sont représentés par les deux premiers serviteurs. C'est quoi le sort qui leur est réservé? Entrer dans la joie du maître, c'est fort ça. Le maître, il se réjouit, il revient, puis les serviteurs peuvent se réjouir avec lui. C'est tout un honneur, là. Ils font pas juste se servir, ils rentrent dans sa joie. Et quoi d'autre? Ils ont des récompenses. Puis, en fait, leur récompense est sous la forme de... Ils ont davantage à gérer, des responsabilités encore plus grandes. Nous, en bon Québécois, on voudrait qu'une récompense, ça soit chômage, là. on reste assis sur notre fauteuil et on regarde la télé. Mais pour Dieu, une récompense, c'est qu'il donne, il donne encore plus de travail. Mais c'est une joie. Et le royaume des cieux, ça ne sera pas juste le repos assis sur des nuages à jouer de la harpe. Ça va être de servir pour l'éternité Dieu à construire, travailler. Mais ça va être une joie, là. C'est le repos en Dieu, ça va être ça. Ça va être une activité.
Ce qui arrive aussi, le péché entache vraiment la valeur du travail, comment c'est bon devant Dieu. Puis au début de la création, Adam et Ève, avant même qu'ils pêchent, Dieu avait donné des responsabilités, des tâches.
C'est vrai, c'est vrai. Ils étaient supposés travailler et de trouver leur joie, leur épanouissement dans ce travail-là. Donc, ils reçoivent des récompenses, ils reçoivent des félicitations aussi. Ils sont honorés. Puis, ils vont gérer une partie du royaume futur, le royaume des cieux. Ça, on le voit plus dans Luc. On va avoir le temps d'aller la lire. Puis, ils participent à la joie de Dieu, même la joie de, concrètement, la joie de Jésus lors de son retour. Et c'est quoi l'excuse du troisième serviteur pour ne pas avoir fait fructifier le talent? On en a déjà parlé, mais il dit qu'il avait peur. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens dans la population qui considèrent Dieu comme étant quelqu'un à craindre, là. Il y en a une partie qui considère que Dieu c'est un bonasse, là. Mais il y en a une partie qui considère que Dieu est à craindre, puis ils ont peur de son jugement, là. Ne crains point, crois seulement. Si tu n'as pas la foi, tu tombes dans la peur là, en méditant là-dessus. Ou bien tu as mieux pas y penser. Le verbe qui est traduit par « je savais », c'est « je croyais » ou « je pense », d'après mon point de vue, c'est ce que je sais de toi. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est vrai. Puis même quand le maître lui répond puis il dit « bon, ben tu le savais », ça peut avoir le sens aussi « tu pensais ça de moi ». Mais il n'est pas en train d'admettre qu'il est réellement dur et qu'il moissonne ou il n'a pas récolté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous démontre qu'il était dans l'erreur? Oui, il n'a pas demandé à ses serviteurs de faire quelque chose de malhonnête, d'aller voler dans les terrains des autres. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui nous montre qu'il n'est pas dur et malhonnête, mais qu'il est bon et juste?
Un a reçu 5, puis l'autre 2, puis il les félicite exactement de la même
chose. C'est ça, c'est ça. Si vraiment il avait été avare puis méchant, mm-hmm. Il aurait félicité celui qui en a donné le plus, puis celui qui en a donné un peu moins, là, et bon, tasse-toi de là. Non, il est reconnaissant envers les deux, à la mesure de ce qui leur a été confié, à la mesure de leur capacité. Donc, il est juste, puis il est bon. En plus, il leur fait bénéficier de sa communion. Donc, ce que le serviteur méchant pensait du maître était faux. Il se trompait. Il ne connaissait pas le maître. Donc, c'est ce qu'il croyait, lui. Là, on pourrait dire, bon, ce n'est pas de sa faute, c'est sa compréhension qu'il avait du maître. Mais même dans sa compréhension qu'il avait du maître, qu'il est un maître dur et injuste, impitoyable, à craindre, il n'a pas agi en fonction de cela. Donc, même sur la base de ses propres paroles, là, il est condamnable. Parce qu'il aurait dû tout faire, là. Même s'il croyait que le maître était injuste, bien, il aurait dû lui-même contribuer à aller voler des récoltes chez les voisins. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a même pas servi le maître de la mauvaise manière qu'il le voyait. Donc, le serviteur était évidemment paresseux. Mais en quoi il était mauvais ou méchant? Ça, c'est peut-être un peu moins évident, oui. Il se place à la place du juge. Ouais. Puis quand le maître il a confié le talent, là, il n'a pas dit « non, je ne le veux pas, là, t'es un maître ». Il a accepté la tâche. Là. La tâche lui a été confiée. Il ne l'a juste pas faite. C'est ça. Donc, du point de vue du maître, ce qui n'est pas en sa faveur, dans son intérêt, est contre lui. Parce qu'il a perdu, dans le fond, là. La somme qu'il aurait pu avoir pendant ce temps-là, le profit, c'est comme si le serviteur lui avait volé, parce qu'il ne l'a pas fait fructifier. Donc, il a agi contre le maître. C'est principalement ça. Il n'a pas agi en faveur du maître, il a été même inutile. Il dit « serviteur inutile ». Donc, c'était l'équivalent d'avoir agi contre lui, d'avoir été un infidèle. Et celui qui est infidèle face au maître des maîtres, bien, il est forcément méchant. Être contre Dieu, c'est faire le mal. Donc, c'est lié ensemble, là. Parce qu'on est paresseux pour les choses du royaume, c'est un péché. C'est pas seulement une négligence, là. C'est d'agir contre Dieu. Et quel est le sort qui est réservé à ce mauvais serviteur? Les ténèbres du dehors, il y a des pleurs, des grincements dedans. Ouais, c'est une illustration de l'enfer. Et quoi d'autre, si on compare à ce que les deux premiers ont reçu? Bien, c'est sûr qu'une église qui prêche, qui insiste beaucoup sur la perte du salut, et qui dit à l'Assemblée, partagez votre foi, parce que sinon vous ne portez pas de fruits pour Dieu et vous pourrez jeter dans les ténèbres du dehors, bien, elle va peut-être utiliser ce texte-là. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Quelqu'un qui dirait, le troisième, c'est un chrétien, mais qui a été paresseux et qui finalement va être rejeté. Si c'était juste qu'il n'entre pas dans la joie de son maître, comme les deux autres serviteurs, qu'il n'est pas félicité, on pourrait dire, c'est un chrétien qui passe sa récompense. Mais là, c'est plus que ça, là. Il est puni de mort. La question, c'est, est-ce que ça se peut qu'un vrai chrétien, parce qu'il était négligent, finalement, soit jeté dans les ténèbres du dehors? Non. Est-ce qu'il y a des indices dans la parabole qui montrent? Bien, c'est ça. Le chrétien connaît son Dieu. Il n'est peut-être pas aussi zélé qu'un autre chrétien. Il a pu peut-être être négligent pendant des années. Il n'a pas partagé sa foi. Il n'a pas contribué à l'édification. Mais ici, le troisième serviteur, je ne pense pas qu'il représente ça. Il représente quelqu'un qui n'a pas servi son maître, qui a même agi contre lui et qui ne connaissait pas son maître. Ce n'est pas tous les chrétiens des églises qui vont être considérés comme un chrétien et entrer dans la joie de ton maître. Et il va, dans les églises, il va prendre ceux qui sont ses vrais serviteurs. Ce sont ceux qui ont été fidèles à la mesure de ce qu'ils sont capables. Et il va séparer les boucs des brebis. Mais il y a des gens, on va être surpris, là, qui étaient des brebis, puis on ne le pensait pas, ou d'autres qui étaient des boucs, puis on ne le pensait pas. Puis parce qu'il n'a pas de fruits profitables au royaume, c'est ça qu'il dit. Il n'a pas, bien, il se fait même ôter ce qu'il a. C'est-à-dire qu'après, il n'y aura plus aucune opportunité de servir le maître. Puis on voit la conséquence, c'est imagé, mais c'est l'enfer. Donc, on a déjà répondu, est-ce un chrétien? Non. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne à nous, cette parabole? C'est sûr que c'est pas juste de dire, ah, ben finalement, je suis un bon serviteur, moi. Non, il y a une raison à ça, là. L'importance de travailler au profit là, du maître, là. Considérer ce que Dieu nous a confié. Oui, il faut être fidèle, c'est ça. Tu peux pas juste donner un bon coup, et après ça, tu dis, ah, ben là, je suis bon pour une dizaine d'années. Puis ça va contre l'idée aussi d'une retraite totale. Tu sais, quand tu arrives à un certain âge, bon, j'ai fini. Ça se peut pas, là. Tant que tu es sur la terre, tu as quelque chose à faire. Oui, ça nous empêche d'être totalement surpris de voir que finalement, il y a des chrétiens qui ne servent pas le maître du tout, qui semblent ne pas le connaître. Ça se peut qu'ils sont chrétiens de nom. Oui, certains vont dire, ben, je respecte ses commandements, tu ne tueras point. Est-ce que tu apportes des profits au royaume de Dieu? Là, ça va être un peu moins facile à répondre. Oui, est-ce que tu le connais personnellement? Là? Es-tu capable de le décrire? Donc, l'importance de servir dans la mission que Jésus nous a confiée. Une autre chose qu'on apprend aussi au niveau des capacités de chacun, c'est variable. On n'a pas tous les mêmes capacités. Donc, ce qui nous est confié est variable aussi. Dieu nous confie des responsabilités en fonction de nos capacités, qu'il nous a aussi données. C'est Dieu qui donne tout, là, finalement. Les capacités de chacun sont différentes, mais Jésus récompense la fidélité, donc d'avoir fait de son mieux. Il n'y a pas de place à se comparer, non. On va aller dans Luc. Ça se ressemble beaucoup. C'est les mines. Ou est-ce que c'est appelé d'un autre terme dans votre traduction? Oui, des mines, c'est des pièces, c'est ça, d'une certaine quantité, une certaine somme. Certains pensent que c'est une valeur égale à un talent. D'autres disent non, c'est inférieur à un talent. Donc, c'est soit égal ou inférieur. Verset 11. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Et il appela 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 mines, et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fut appelé auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Ouais. Et il lui dit, « Ah ouais, je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, ou tu pensais, et que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé? Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque, et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Et il lui dit, « Mais Seigneur, il a 10 mines. » Et je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. Donc ici, le contexte est différent. Il est en route vers Jérusalem, mais c'est peu de temps avant qu'il arrive. Puis il y a une grande foule qui le suit, là. Puis la parabole vient tout juste après la conversion de Zachée. Donc il y a des gens qui ont assisté à la conversion de Zachée. Puis Jésus avait conclu cet épisode-là en disant, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ça nous donne un petit indice. Puis ensuite, il s'adresse aux disciples qui le suivent vers Jérusalem. Mais là, c'est pas seulement ses disciples proches, les 12, c'est une foule qui le reconnaissent comme leur roi. Ils le célèbrent. D'ailleurs, ils pensent que le royaume va arriver là. Jésus va rentrer dans les honneurs à Jérusalem. Son royaume va être établi, un royaume terrestre, puis qu'il va renverser l'Empire romain. La parabole est similaire à celle qu'on a étudiée tantôt, mais avec quelques différences. Pouvez-vous en lister? Voyez-vous des différences entre les deux paraboles? Il parle de ceux qui sont pas de sa maison, là, qu'ils le haïssent. Puis on dirait qu'ils le haïssent tous. Oui, c'était pas juste un voyage, c'était pour être officiellement nommé roi et revenir par la suite. Par rapport à ce qui est confié aux serviteurs, est-ce qu'il y a une différence? Oui, donc la parabole n'insiste pas sur le fait que à chacun est confié une somme différente. Elle insiste plutôt sur le fait qu'il y a quelque chose qui est confié à tous, comme le même mandat est confié à tous. Donc, c'est un autre point de vue. C'est pas que ça se contredit, là. Ça vient apporter un autre aspect. Le mandat, la mission est confiée à tous. C'est la même mission, là. Oui, la récompense ici est différente. La récompense est à la mesure du profit qui a été apporté au royaume. Ça amène un autre aspect aussi. L'autre parabole insistait sur le fait que tous vont être récompensés. Tous ceux qui ont servi, ils vont tous entrer dans la joie de leur maître. Ils sont récompensés, félicités pour leur fidélité. Et ici, cette parabole-là insiste sur un autre aspect. C'est que chacun va recevoir une responsabilité, qui est une récompense, à la mesure du profit, de sa contribution au royaume. Oui, c'est ça, c'est proportionnel, on dirait. Même si c'est énormément plus, parce que c'est une mine qui a fait profiter à 10 mines, un montant d'argent, mais il reçoit la gérance de 10 villes dans le royaume. C'est pour montrer aussi que c'est énorme la récompense qui est donnée, là. Mais c'est en proportion quand même. Et qu'est-ce qui arrive aux mauvais serviteurs? Est-ce qu'il y a une différence? Il perd le privilège de pouvoir gérer. C'est pas le serviteur qui est tué, c'est les ennemis. C'est ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne. C'est les concitoyens qui ont envoyé dans l'ambassade pour bloquer la nomination. Donc, ce serviteur-là, on ne sait pas. Donc là, ça laisse place à une interprétation que ça peut être un chrétien qui a mal servi son maître et finalement, il perd sa récompense. C'est pas dit qu'il est jeté dans les ténèbres du dehors, qu'il va en enfer. C'est la mort qu'il subisse aussi, là. C'est une mort éternelle. Il y a des souffrances... Pour qu'on comprenne, c'est décrit comme des souffrances physiques, là. Donc, être égorgé, c'est sûr que ça a l'air cruel. Mais je pense que les souffrances de l'enfer, c'est pire que ça, là. Égorgé, c'est pas trop long. Tu meurs au bout de ton sang. Donc ici, il y a la présence d'ennemis. Ce genre de situation-là, c'est arrivé dans l'histoire. Donc les gens connaissaient... Quand Jésus était petit, il y avait Hérode le fils d'Hérode le Grand. Donc c'est pas arrivé seulement là, c'est arrivé à plusieurs reprises parce que quelqu'un qui était placé par Rome comme un monarque là, d'une région, d'un pays, pouvait monter à Rome pour se faire reconnaître comme roi. Puis là, il régnait en tant que roi. Puis c'est arrivé à Hérode le fils, là, Archélaus. Il est monté à Rome, mais les Juifs ont envoyé une délégation de 50 personnes pour dire à César, on veut pas qu'il règne sur nous. Là. C'est un... Son père était cruel, puis lui aussi, il va être cruel. Mais ça a mal tourné parce que finalement, il a été admis roi. Puis quand il est revenu, il les a passés au cash. Bon, on connaît pas toutes les informations, mais on sait qu'il était très sanguinaire, violent. Au point où ce que... Ben, Rome l'a mis comme roi, mais ils lui ont dit, à la condition que tu amènes la paix quand même en Israël. Il a pas amené la paix, puis après 7 ans, ils l'ont fait ramener à Rome. Ils l'ont passé en tribunal, puis il a été expulsé parce qu'il a été envoyé en Afrique du Nord. Parce qu'il avait été trop cruel. Donc, on suppose que ceux qui avaient plaidé contre lui ont passé au cash. Donc ça, c'était arrivé avant. Donc quand Jésus racontait cette parabole-là, il savait de quoi il parlait, là. Le sort qui attend ceux qui sont contre la royauté là, du maître est grave. Et c'était quoi le but? L'un des buts de la parabole, selon l'introduction de la parabole au verset 11, c'est quoi un début? Les gens croyaient que le royaume allait apparaître à l'instant. Mais c'était pour qu'ils comprennent, non, je dois d'abord partir. Je vais être reconnu roi par celui qui a autorité de me reconnaître roi, c'est-à-dire Dieu le Père, et je vais revenir en tant que roi. Après un long temps, même, c'est spécifié. Donc, pensez pas que ça va se faire après une semaine. C'est un long temps. Même si les premiers chrétiens attendaient le retour de Jésus imminent, là, Jésus a quand même été clair ici que ça allait prendre du temps avant qu'il revienne. C'est ça, au dernier temps, au moment où est-ce que je vais être établi sur mon royaume, puis il va avoir juste mon royaume, parce que tous les ennemis vont être égorgés. Puis qu'est-ce qu'elle enseigne de plus que l'autre parabole? Mais on peut dire que ceux qui ne sont pas de la maison de Jésus, ceux qui ne sont pas ses serviteurs, ils vont le haïr. On n'a pas à se surprendre de cela. Et être rejeté comme roi. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est invité à servir. Donc, on sert à l'avancement du royaume, mais le royaume qui n'est pas bien accueilli. Donc, il y a une souffrance à porter à cela. On sert au profit d'un royaume qui est rejeté par les autres. Et il est accepté au fur et à mesure que des gens s'ajoutent, là. Donc, il y a une joie à cela. Mais il faut s'attendre à ce que le royaume, le roi qu'on annonce, est rejeté, n'est pas bien accueilli. Jésus l'avait prophétisé, puis c'est ce qu'on voit là depuis 2000 ans. Le christianisme n'a jamais été bien reçu, là, qui accepte sa royauté à l'avance par la foi. Et il croit qu'un jour il va revenir en étant officiellement reconnu roi, qu'ils vont le voir, qu'ils vont voir son royaume. Ils ont la foi. Puis c'est une motivation à servir, parce que plus on sait que la récompense va être proportionnelle à notre apport au royaume de Dieu. On ne sait pas encore notre potentiel, ce que Dieu va nous confier dans les prochaines années, mais on est invité à le servir de notre mieux, le plus possible. Parce qu'on va être récompensé, c'est pas en vain. Ben, le fait de voir le royaume de Dieu grandir aussi, croître en nombre et croître spirituellement, c'est déjà une récompense. Mais en plus, Dieu va souligner cela, il va féliciter ses serviteurs. Et éventuellement, Jésus va punir ses ennemis. Amen. Quelqu'un voudrait prier pour conclure?